Si vous avez envie d'aller faire une balade merveilleuse, je vous encourage vivement à aller vous promener au deuxième étage de Saint-Gervais. Non, c'est pas un parc public, non, c'est pas la campagne, mais je vous assure que ce sera une balade fantastique. En tout cas, moi, j'y suis allée m'y balader quasi une heure entière, bon, à mon envie, mais surtout à l'invitation de Giovanna Grieco, qui expose ses sculptures à Saint-Gervais, justement. Alors j'ai découvert un monde étonnant de rondeur, de poids, de matière à toucher, d'intimité à pénétrer, de femmes d'ailleurs presque exclusivement. Et dans cette balade magnifique, j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec Giovanna et je lui ai demandé de bien vouloir venir en direct avec nous ce matin pour reprendre un peu cette discussion avec vous parce que je crois que c'est très très intéressant ce qu'elle fait dans son travail et la façon dont elle en parle et ça vaut la peine que vous en sachiez. Chier autant que moi. Alors, Giovanna, pour toi, bon, Giovanna, d'abord, peut-être que pour vous l'imaginiez, est une jeune femme qui a 22 ans, donc une jeune femme sculpteur, parce qu'on ne dit pas sculptrice, tu m'as dit. Hein.
Non.
Bon, ça, on ne va pas discuter de ça aujourd'hui. qui, donc, pratique la sculpture déjà depuis de nombreuses années, hein, si je me souviens bien.
Oui, ça fait pratiquement 7 ans.
7 ans, donc ça vient déjà d'une grande envie qui remonte très très loin.
Oui, même plus loin.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
J'étais déjà un sacré petit bonhomme bizarre.
Et pour toi, est-ce que c'est important de faire une expo comme celle-là? D'abord, exposer, est-ce que c'est une chose importante dans la vie d'une artiste qui travaille dans son atelier, j'imagine beaucoup, et puis tout à coup, à un moment donné, dit « bon, je veux montrer mon travail aux autres ». Est-ce que c'est important?
Oui, c'est très important parce que, ça, en tout cas pour moi, ça n'a pas de sens de faire de la sculpture, d'essayer de passer un message, puis s'auto-satisfaire tout seul et rester dans un coin, dans l'ombre. C'est très important de le montrer et de voir si on arrive à le partager avec le reste des gens. Et puis, les expositions, c'est une bonne façon de le faire.
Est-ce que les gens, quand ils viennent, je ne sais pas si tu es présente tout le temps à Saint-Gervais alors, pendant l'exposition, les gens peuvent éventuellement discuter avec toi, dialoguer avec toi lorsqu'ils viennent visiter ton expo?
Alors, je n'y suis pas toute la longueur du temps, mais je vais tous les jours un moment parce que c'est très important que les gens puissent discuter avec moi parce que souvent, ils ont besoin d'en savoir un petit peu plus pour mieux comprendre l'artiste et son travail. Ils ont besoin qu'on leur dise de toucher, ils ont besoin que, mm-hmm. qu'on soit là. Et alors, je reste à disposition et même avant que... Quand j'ai pas exposé, quand j'avais pas de possibilité d'exposer, j'ai toujours fait visiter mon atelier. Ça étonnait souvent mes copains aux Beaux-Arts, tout le monde que je faisais passer, mais c'était important. Soit pour moi, soit pour les gens qui m'aiment, parce que c'est tellement partie de moi, c'est tellement ma vie que j'ai besoin de le partager.
Est-ce que, bon, tu parles des Beaux-Arts, là, donc si tu as fait d'abord les arts décoratifs, ensuite tu es allé aux Beaux-Arts, ces différentes écoles, est-ce qu'elles t'ont amené justement un échange supplémentaire? Est-ce que c'est là que tu as appris à sculpter? Est-ce que c'est là qu'on t'a dit c'est bien, c'est pas bien, continue, fais pas ci, fais pas ça? Enfin, comment ça se passe dans ces écoles-là? C'est créatif vraiment d'aller là-dedans?
Alors, ce qui se passe, c'est que pour moi, ça n'a pas été... Ce qui est très chouette, c'est qu'on m'a laissé travailler. Mes profs ont vu que je savais où j'en étais, que la voie que je voulais mener. Alors, c'était une structure qui m'a beaucoup aidée parce qu'à 15-16 ans, des fois, ça peut être difficile de se lancer tout seul dans un métier comme ça. Alors, pour ça, c'était vraiment très utile. Je n'ai pas spécialement suivi des cours ou spécialement eu besoin d'avoir un prof continuellement derrière moi parce que je savais ce que je voulais dire, ce que je voulais faire et puis ils l'ont compris et m'ont laissé faire. Mais cette structure a été, c'était comme un cocon nécessaire quand même pour démarrer, pour me donner de la sûreté en moi.
Est-ce que les élèves se critiquent les uns les autres, enfin, ou se donnent des avis sur le travail les uns des autres? Il y a un échange un peu comme ça de confiance qui permet qu'on puisse dire à l'autre « j'aime ou j'aime pas ce que tu fais ».
Oui, il y a ça, puis c'est très bien parce que comme on est entre nous, on a le même âge, alors on ose lancer toutes sortes de vannes et de compliments. Et puis c'est bien de se le dire. Et c'est bien parce qu'il y a de tout dans une école d'art. Ça va des choses les plus abstraites, les plus folles jusqu'à l'académie d'il y a des années. Et puis, c'est un monde, ça nous donne une ouverture dans l'art, et puis, qui est vraiment, c'est riche pour chaque sculpteur, pour chaque peintre, c'est très riche d'avoir tout ce monde autour de nous.
Tu as l'impression qu'une fois l'école terminée, les gens prendront moins de risques? Tu dis là, ils s'éclatent, ils vont un peu dans tous les sens. Est-ce qu'une fois l'école finie, quand on se retrouve face à la nécessité de produire et d'exister dans le monde artistique, y compris professionnel et financier, les gens vont prendre moins de risques?
Il y en a déjà très peu qui continuent. Et c'est vrai que, bon, toujours le problème, c'est le problème financier. Puis il y en a qui en ont peut-être moins parce qu'ils diront que ce n'est pas ce qui va se vendre plus facilement. Alors, c'est vrai, il me semble en tout cas que ça a l'air... après plus coincé. Et ceux qui résistent et qui passent toutes les tempêtes, alors après je crois que c'est bon, ils sont imposés en tant que personne. Mais c'est vraiment chouette pour ça, une école d'art.
Est-ce que l'école d'art, elle vous donne la possibilité d'exposer vos travaux justement? Parce que, bon, toi, je ne sais pas, tu nous raconteras tout à l'heure comment ça se fait que cette expo s'est faite, mais c'est une bonne confrontation quand même de pouvoir une fois montrer au public. Est-ce que dans les écoles, on vous donne cette occasion-là?
Alors on a tous les 6 mois ce qu'on appelle un jury, c'est pour nous nos examens où on présente notre travail devant un membre du jury, 5 personnes. Mais c'est public, alors c'est pas une exposition avec vernissage officiel dans une galerie, mais c'est toujours des examens publics. Ça fait que si on veut, on peut faire venir des gens de l'extérieur. Et puis sinon il y a une salle d'exposition dans l'école de Général Dufour, mais... c'est pour plus tard, pour les gens qui ont après fini l'école. Mmh. Mais c'est quand même bien ouvert. Mmh. On peut emmener du monde. Les gens n'aiment pas toujours, mes copains le font pas très souvent, mais en tout cas, moi, j'en ressens le besoin.
Alors, on va remettre quelques notes du Boléro de Ravel que tu as choisi. Tu connais une anecdote assez rigolote, d'ailleurs, sur l'histoire du Boléro de Ravel, non?
Oui, on m'a raconté que Ravel, justement, était persécuté par une charmante ou pas danseuse et qui voulait absolument qu'il lui écrive une musique pour qu'elle puisse danser. Et il était agacé, il a écrit le Boléro qui a un côté monotone comme ça, qui monte, mais petit à petit... Et puis pour finir, c'est un succès, elle l'a dansé très très bien.
Vous êtes toujours sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et nous sommes en compagnie de Giovanna Agrieco, femme sculpteur. Alors, Giovanna, peut-être maintenant, on pourrait essayer d'expliquer, tu pourrais essayer de nous expliquer un petit peu comment tu en arrives à faire ces sculptures magnifiques comme je les ai vues. Parce que, bon, je disais, j'ai voyagé dans un monde de rondeur, parce qu'il y a beaucoup de formes rondes, hein. Un monde de poids, parce que ces statues sont parfois pas très grandes, mais elles ont l'air très pesantes. Un monde d'intimité, parce que c'est quand même des personnes, des femmes qui ont l'air dans leur monde très à elles. Et puis des femmes surtout, hein, des femmes, beaucoup de femmes, très en forme, quand je dis rondeur, parce qu'elles ont des cuisses magnifiquement rondes, elles ont des épaules rondes, on a envie de toucher, de caresser en permanence quand on se promène dans cette exposition. Alors, comment t'en arrives à faire des sculptures comme ça? Il y a une démarche un peu habituelle de ta part pour arriver à, à te lancer dans une sculpture, ou ça change d'une fois à l'autre?
Alors, je ne fais pas de dessin, mais je travaille beaucoup l'argile avant d'attaquer souvent mes pierres. Ou bien, bon, quand je n'ai pas de sous, je ne fais que de l'argile. Mais j'en ferai toujours parce que c'est un matériau superbe qui, je trouve, correspond bien à la femme, qui est chaud et sensuelle. Alors, je commence par faire des tas de séries de maquettes qui sont des fois détruites, qui après deviennent elles-mêmes des sculptures. Et puis... Donc je les travaille en terre et après il se passe toute une sorte de rituel comme ça. Souvent que je les fais chez moi ou dans mon atelier le soir, je les touche avant de partir, je les caresse, je leur tourne autour, je leur mets de l'eau parce qu'il faut toujours mouiller la terre le soir avant de partir pour pas qu'elle sèche, pour qu'on puisse après mouler. Et je m'imprègne totalement de leur forme, de leurs gestes et puis cette imprégnation... Ça a une suite, c'est un petit peu une chaîne comme ça. Et à force d'en faire, j'en suis. Le sujet se développe et j'ai comme ça, je continue à faire des progrès. C'est ma façon de travailler. Je ne fais pas de croquis, je ne travaille pas le dessin, mais je pétris continuellement.
C'est surtout le volume, la masse qui
Voilà, c'est ces jeux de masse dans l'espace, même si ça n'a pas forcément. Elles n'ont peut-être pas forcément un nez, une bouche ou forcément les deux jambes, mais c'est ce jeu de masse dans l'espace qui m'intéresse.
Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que certaines, effectivement, ont l'air comme ça. Suivant d'où on les regarde, on a l'impression d'une masse informe. Et puis tout à coup, on bouge un tout petit peu et tlac, apparaît un mouvement magnifique. Une femme qui en serre un enfant dans ses bras ou un homme qui en serre une femme qui en serre un enfant. Enfin, une succession de mouvements magnifiques. Le mouvement a beaucoup d'importance dans tes sculptures.
Oui, le mouvement, le geste, c'est très important parce que je trouve, en tout cas avec leur corps, c'est pour ça... Si je les décris un peu, elles ont des toutes petites têtes. La tête est presque... On ne fait pas très attention à la tête parce qu'elles ont un corps tellement expressif, tellement important. Leur geste est tellement clair quand on les voit que pour moi, c'était trop de faire la tête et le corps. Alors, je les laisse parler avec leur corps. Et puis, c'est vrai que le geste, le mouvement, c'est ce qui me travaille tous les jours quand j'observe les gens. J'ai l'impression que... Des fois, ça m'arrive de regarder trop les gens dans le bus ou dans la rue. Puis ils trouvent ça peut-être un peu bizarre, mais j'ai besoin de regarder, j'ai besoin de voir les gens bouger. Et puis dans ma tête, ça fait des tas de volumes qui continuent à circuler.
Parce que quand tu dis « je regarde les gens », donc le monde extérieur t'influence, te sert d'inspiration pour ton travail?
Ah oui, absolument. C'est vraiment... La vie quotidienne, aller faire mon marché comme dire bonjour à la caissière, c'est vraiment ces choses les plus simples de la vie qui font mon inspiration.
Il y a beaucoup de femmes dans enfin il y a même presque que des femmes parfois, il y a des hommes qui sont associés aux femmes, mais on sent bien que c'est la femme qui est présente en tout cas dans cette exposition-là. Il y a une raison particulière pour que tu évoques dans tes sculptures la femme ?
Oui, je crois que peut-être aussi parce que j'en suis une, petite, mais j'en suis une.
Et ça, c'est vrai qu'il faut constater que toi, t'es petite et tes statues sont énormes. Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Mais je crois que j'ai été frappée par ces grosses femmes. Je suis originaire du sud de l'Italie et je crois que ça m'a beaucoup frappée, ces énormes femmes qui m'ont entourée. Puis aussi, c'est parce que c'est un thème très antique qu'on a utilisé depuis la nuit des temps. Mais le fait de le réutiliser à notre époque, moi, à mon âge, avec ce que j'ai vécu, même si c'est un vieux thème, c'est jamais la même chose. Et puis pour moi, c'est pas l'originalité du thème qui compte, mais c'est la sensibilité et l'intelligence avec lequel le sculpteur le présente, ce thème. Et j'aime bien, j'éprouve plus de joie à travailler ces vieux thèmes comme ça qui ont souvent hanté, qui ont préoccupé l'humanité, plutôt qu'à vouloir absolument trouver un thème original qui n'a pas spécialement de sens comme ça.
De toute façon, je crois que la femme, la maternité, la fécondité, c'est une chose qui la préoccupera toujours d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Donc, c'est un thème hyper d'actualité à chaque époque.
Je crois, oui. Ouais. Puis pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, ça touche vraiment tout le monde. Parce que c'est vraiment, c'est la suite de la vie, quoi. C'est la vie tout court.
Oui, d'ailleurs, tu expliques un petit peu, parce que tes statues n'ont pas de socle. Elles sont, parfois, on a l'impression qu'elles surgissent de l'endroit sur lequel elles sont posées. Suivant si elles ont des jambes ou pas de jambes, etc., ça a une signification, ça, pour toi?
Oui, c'est très important qu'elles n'ont pas de jambes. Si elles ont des bouts de jambes qui sont tronqués, on dirait des montagnes. J'ai une fascination pour les montagnes. Pour moi, c'est un peu... C'est un peu l'os de la terre, c'est le squelette de la terre. Puis c'est magnifique, il y en a des énormes touffus, on dirait des oursons, puis il y en a qui sont ridés, qui sont angulaires. C'est absolument, je sais pas, ça me fascine. C'est très intérieur, peut-être je l'exprime pas bien, mais ça me fascine. Il y a ce côté-là aussi dans mes pièces, elles ont l'air vraiment, elles ont des basses et des montagnes, elles n'ont pas de jambes, c'est vraiment énorme. Puis il y a le côté, en revenant aux femmes du Sud, ce côté tronqué, c'est aussi... au niveau la force que ces femmes représentent pour moi. Elles ont l'air de femmes des fois soumises, enfin elles sont soumises mais qui disent pas grand chose un peu dans les bas-fonds des maisons, mais elles ont une force terrible. Et puis tronquées peut-être parce qu'on n'en voit qu'une partie. C'est pour ça, entre autres.
Donc leur pouvoir est caché aux yeux de tout le monde, mais il est
ouais,
immense.
Oui, mais
quoi.
Il est immense. Elles ont vraiment, pour moi, c'est les pylônes des familles, ces femmes.
D'ailleurs, tes statues, on a l'impression, on aurait envie de les mettre ailleurs que dans une salle d'exposition, parce que justement, comme elles ont l'air de surgir de quelque part, du sol, on se dit, on les verrait très bien posées sur une plage ou dans un jardin, dans de l'herbe, ou elles s'intégreraient très bien à la nature. Tu as jamais essayé de faire ça?
Oui, je les ai mis. J'ai eu la chance que des gens m'ont proposé leur jardin, et c'est absolument, ça change tout de les voir dehors, parce que elles s'intègrent tellement bien qu'on a l'impression qu'elles ont poussé là, qu'elles ont les racines, et puis qu'elles bougent pas, elles sont tellement grosses et stables. Puis en général, elles sont souvent deux par deux, alors elles se causent, elles font la causette. Puis en tout cas, moi, et je suis pas la seule, à force de les regarder, de les observer, puis on a envie de se rapprocher, puis de les écouter, on entend babiller comme ça, puis c'est vraiment les grosses mamies qui causent à longueur de journée.
Certaines de tes statues ont l'air d'être plus élancées. Est-ce que c'est signe d'une évolution ou c'est des sculptures plus anciennes ou plus récentes? Elles sont moins comme ça, assises dans le cœur de la terre.
Oui, c'est une évolution, je crois. C'est peut-être moi aussi, en devenant plus femme, une sorte d'élan ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être aussi, en reparlant, je reviens toujours à ces histoires de femmes du Sud qui sont grosses comme ça, qui ont un côté qui donne la vie, qui sont c'est vraiment des matrices, des déesses mères comme ça, mais en même temps elles ont un côté très étouffant, et je crois que j'ai un petit peu peut-être souffert de ça, et maintenant je m'en détache complètement, et c'est là où je m'élance, et puis il y a de l'ouverture, il y a les jambes écartées avec un trou, ce qu'il n'y avait pas du tout. Avant, elles étaient complètement fermées, les bras soudés au corps. Mais je pense que je vais vers cet élan, peut-être cette abstraction et cette ligne dans la sculpture, mais c'est pour mieux revenir à des choses primitives comme avant.
Pour terminer sur la façon dont tu... Moi, j'étais frappée les matières que tu utilises. Parce qu'il y a, bon, il y a l'air d'avoir, je ne sais pas, c'est quoi, du béton qui est en plus coloré. Mais il y a des couleurs très étranges. Tu utilises la pierre. Tout à l'heure, tu disais quand j'ai les moyens de m'acheter de la pierre. Ça coûte cher d'acheter de la pierre.
Oui, c'est surtout, je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis difficile. J'aime bien le granit. J'aime beaucoup cette pierre parce qu'elle a... Elle a un caractère, elle a une force, elle a quelque chose de très particulier. Elle n'est pas aussi noble que le marbre, mais c'est le granit qui me correspond le mieux. Et il n'est pas si bon marché. Alors quand je n'ai pas beaucoup de sous, je fais plus de moulage, enfin, qui est au départ une sculpture en terre et qui après moulée en ciment. Seulement, j'en ai fait beaucoup de ces ciments. Et puis, c'est assez triste, ce ciment gris comme ça. Alors, je me suis dit que je voulais arriver à mettre de la couleur et qui, en même temps, ça fait quelque chose de moderne avec des thèmes antiques. Et ça fait un doux mélange, enfin, sympathique.
C'est magnifique, oui, ça c'est sûr.
Peut-être pas le mot. Alors, ce ciment, il est traité avec des oxydes. C'est des poudres qui n'empêchent pas la prise du ciment, qui n'empêchent pas de durcir. Et puis, c'est avec des années à force d'en faire que j'arrive à des couleurs où je suis contente. C'est un peu des recettes de cuisine. Je crois que chaque sculpteur a sa petite recette où il faut mettre plus ou moins d'eau, plus ou moins de ciment, plus ou moins de sable. Oui, donc et c'est un côté...
Le pot de la sorcière.
Voilà, c'est un côté... c'est ces petits secrets. J'aime bien ce côté-là.
Mais quand tu travailles la pierre, le granit, mon Dieu, c'est une matière monstrueusement lourde et rigide. C'est pas terrible de travailler la pierre comme ça?
C'est, pour moi, c'est avoir un petit bout de montagne et où je sens que mon personnage est déjà dedans et il faut que je le dégage. Et c'est un tel plaisir d'arriver à exprimer peut-être de la poésie ou de l'amour dans un morceau de montagne qui a l'air tout dur, qui fait mal, qui est brusque comme ça. C'est un tel plaisir que je ressens. Je ne fais pas attention au poids ni à la dureté. Ou peut-être au début, quand j'ai commencé, je sentais mes petits bras. Mais maintenant, ça va.
Parce physiquement, c'est quand même éprouvant, non, de tailler de la pierre
oui,
comme ça.
Oui, oui. Après les 8 heures de taille, je suis contente.
T'as les avant-bras qui gonflent.
Oui, oui. Surtout hein, le droit, plus que l'autre. Mm-hmm. Oui, c'est des journées éprouvantes. Mais je suis tellement heureuse. Je me sens très femme comme ça, prête à affronter n'importe quoi.
Parce que ce travail dur, justement, au contraire, tu dis « je me sens très femme », beaucoup d'hommes ont l'air de prétendre que justement la sculpture devrait être strictement réservée aux hommes parce que c'est un travail d'homme de sculpter, de s'attaquer à la masse solide comme ça. Est-ce que toi, tu as vécu ce type d'affrontement-là avec les hommes pour justifier ton travail?
J'ai un petit peu plutôt avec les hommes de l'extérieur. Bon, mais je dois dire que... Mes collègues, mes copains sculpteurs m'ont vu et petit à petit évoluer depuis des années. Donc, c'est pour eux, ça fait partie. Enfin, ils me voient tous les jours. Mais à l'extérieur, souvent, quand je dis que je fais de la sculpture, on imagine certains, pas tous quand même, certains imaginent que c'est peut-être la poterie ou enfin, je bricole quelque chose comme ça. Alors, ils ont un doute comme ça, un peu un gros point d'interrogation. Ils n'y croient pas trop, mais... Comme ils sont gentils, ils ne veulent pas être impolis, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Mais je l'ai senti quand je vais des fois dans les marbreries ou les carrières pour chercher ma pierre. Je me fais plutôt siffler que me faire prendre au sérieux. Mais une fois que cette étape est passée, je dois dire qu'il y a une certaine peut-être admiration qui rentre en jeu. Puis un certain respect, ils sont impressionnés, ils ne s'y attendent pas. Parce que... Peut-être qu'ils croient qu'une petite femme, ça peut pas faire ça, puisque c'est un travail spécialement d'homme et de force. Et puis moi, je suis persuadée que ce n'est pas une histoire de force, parce qu'on en a beaucoup, les femmes, et c'est plus une force qui vient de la tête et
l'énergie
des tripes.
Intérieure, ouais.
Et je crois que quand on en a vraiment très envie, puis on en a en plus le besoin de l'exprimer, on dépasse complètement les problèmes physiques. Et ça, c'est une bonne leçon pour eux après. Enfin, ça leur fait souvent changer d'avis. Ils ont une autre vision après de justement cette force de la femme.
On va écouter maintenant Gal Costa qui, elle, dans ce disque, explique justement aussi pourquoi elle chante. Hein. Je t'avais proposé d'écouter une musique brésilienne parce que je trouvais que ces femmes me rappelaient la chaleur avec laquelle je pouvais parler avec les femmes brésiliennes. Alors écoutons Gal Costa parler de la force étrange qui l'anime quand elle chante. Força estranha.
Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho. E acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha.
Giovanna, on va peut-être terminer sur un aspect, une chose qui nous préoccupe. Mais juste avant, Soulamite, qu'on va interviewer tout à l'heure et qui est arrivée entre-temps, qui s'est mêlée à notre conversation, elle avait une autre impression à donner sur la façon dont les hommes perçoivent la femme sculpteur. Parce que tu as eu une autre expérience, tu as rencontré des hommes qui ont évoqué différemment cette différence entre l'homme et la femme au niveau de la sculpture.
C'est-à-dire que pour des raisons particulières, j'ai été très souvent en contact avec des sculpteurs et par rapport au travail de la sculpture, ils me disaient que les femmes, elles sculptent naturellement avec la matière humaine, c'est-à-dire avec leur corps, en donnant naissance à des enfants, alors que, en ce qui les concerne, ils trouvaient tout à fait normal, forme de revanche masculine, de pouvoir s'approprier le reste de la sculpture avec des matières non humaines. Ils disaient donc, les femmes doivent faire les enfants et nous, on doit faire le reste. Et à ce niveau-là, je trouve très bien ton travail parce que je pense que les femmes, au contraire, elles doivent s'approprier leur propre image au travers de la sculpture et montrer, bon, à la fois la femme mythique, à la fois la femme actuelle, montrer qu'il y a une démarche, une vision des femmes à ce niveau-là.
Tu n'as pas été confrontée à cette vision-là des choses, Giovanna ?
Non, j'ai encore pas, encore pas eu.
Bah, ça, c'est, je pense que c'est une chose assez particulière à entendre, une interprétation, mais bon, ça peut rentrer en ligne de compte dans une discussion avec les hommes. Alors, pour finir, juste, bon, quand on voit ces magnifiques sculptures, quand on les imagine chez soi, on se dit « Ah, si seulement je pouvais m'en acheter une ». Est-ce que j'imagine que beaucoup de gens ont dû dire « Je m'en achèterais bien une, mais je n'ai pas les moyens ». Alors, comment tu réagis quand on te répond ça ?
C'est vrai, on me le dit souvent. Et puis, jusqu'à longtemps, c'était un grand point d'interrogation. Est-ce que je vendais trop cher ou est-ce que... Je ne savais pas. Alors, de toute façon, je n'ai pas mis mes prix comme ça d'après la tête du client. J'ai fait expertiser mes pièces et alors il y a eu, d'après les sculpteurs et mes profs, c'est des prix corrects. Alors c'est vrai que c'est pas bon marché, et puis que les gens, pour eux, c'est, ça fait partie encore de l'inutile. On veut bien mettre 20 ou 30 000 francs pour une voiture, mais peut-être que 2 000 francs pour une sculpture qui est justement qui est un élément décoratif, ça fait peut-être trop. Alors je vends pas si facilement, mais quand j'ai vendu ou que je vends, c'est toujours des superbes expériences. C'est des gens qui ont eu des coups de foudre, une histoire d'amour, et qui me reparlent après, avec les années de recul, ils me reparlent de cette sculpture qui vit avec eux. C'est presque une personne en plus. C'est vrai que c'est, même les petites sont imposantes. Enfin, alors, ils me téléphonent, ils me disent, j'ai un vieux monsieur qui en a une dans son jardin, qui me téléphone pour me dire quand elle est dans la neige, sous les feuilles, ou bien il la regarde tous les matins avant de partir. Et c'est merveilleux, c'est tellement beau, des histoires comme ça, que même si je vends pas facilement, c'est...
Et puis tu disais aussi que, par exemple, il y a une femme qui l'a mis tout près d'elle, de son lit, donc elle peut en quelque sorte discuter avec elle tous les jours, là, non, aussi.
Oui, c'est une femme qui en a une, c'est un couple qu'elle a acheté, c'est une sculpture, c'est un couple. Et puis elle l'a tout près de son lit, et son lit est très, très, très bas par terre, et elle dort pratiquement à côté. Et puis elle aussi, elle m'écrit pour me raconter ça, et pour me dire qu'elle fait rentrer dans sa chambre que les gens qu'elle aime beaucoup, et puis que c'est presque un honneur que ma sculpture est...
ça vaut la peine, des interchanges comme cela. Mais alors, on peut imaginer que, par exemple, si on est flashé par une de tes statues, on peut l'acheter à tempérament, en payant petit bout par petit bout. Mais peut-être on va juste faire une petite pause musicale avant de répondre à cette question cruciale, pendant que nous tournons la cassette. Problème crucial de Radio Zone 93.8.